De façon générale, dans les systèmes de domination dont j'ai parlé, donc le sexisme, racisme, agisme spécifique, etc., les figures des dominés servent de figure repoussoire à la figure du dominant et servent à, finalement à caractériser par contraste la figure du dominant. De façon générale, on a une sorte de figure globale qui est celle de l'individu souverain, qui est la figure de l'humain, de l'humanité, telle que la modernité l'a mise en place progressivement, qui est simplement la figure construite par contraste avec la figure de la femme, avec la figure du noir, avec la figure de l'enfant, avec la figure de l'animal. L'individu humain type, l'individu humain typique ou typologique, ou je ne sais pas comment dire, ou emblématique, c'est celui qui par contraste avec la féminité, l'animalité et l'enfance, et serait un individu donc, qui est maître par son esprit, par sa culture, qui est maître de son corps, qui est maître de son histoire elle-même d'ailleurs, qui est donc maître de sa destinée, qui est un individu rationnel, c'est-à-dire il en est maître parce qu'il est capable d'agir rationnellement, avec discernement et de... Il n'est pas agi par son histoire ou par son corps, il domine tout ça. Il est en ce sens-là souverain, autonome, et il est aussi responsable. Et en tant que propriétaire lui-même, il se voit accorder la capacité d'être propriétaire, ce qui est assez fondamental dans notre société. C'est cette capacité de propriétaire qui, en fait, permet la véritable citoyenneté, etc., etc. Et c'est vraiment une figure qui s'est construite historiquement dans un rapport, je ne sais pas comment dire, dialectique peut-être, pas dialectique, je ne sais pas, dans un rapport en tout cas d'opposition et de lien en même temps permanent avec les figures des dominés. Où en fait ils se sont construits conjointement. C'est-à-dire que par exemple, on ne peut pas analyser la figure du masculin indépendamment de la figure du féminin, ni la figure de l'humain indépendamment de la figure de l'animal, etc., etc. La figure de l'adulte indépendamment de la figure de l'enfant. Et tout. Mais en fait, à chaque fois, ces figures-là sont des fictions historiques qui sont liées à des rapports de domination. Sont malheureusement pas des fictions dénuées d'efficacité, on est tenu d'y adhérer. Les dominés tout particulièrement sont tenus d'adhérer à des fictions qui sont des fictions qui les desservent, qui les maintiennent dans un état d'être dominé. Mais les dominants aussi sont tenus en tant que dominants, du coup, de coller à leur étiquette, à leur identité dominante. Et à ce niveau-là, c'est bien plus valorisant et agréable à vivre, avec tous les privilèges qu'il y a, mais on n'a pas plus d'autonomie à ce niveau-là. On est tenu d'y coller, et si on ne le fait pas, on se heurte à toute une batterie de réactions hostiles. Je pense que, par exemple, un bon exemple de ça, c'est... moi, j'analyse l'homophobie ou la transphobie, clairement, comme étant les réactions hostiles qui sont liés au fait de ne pas coller comme il le faudrait aux identités, soit dominées, soit dominantes. Je ne sais pas si toi tu penses, si tu analyses ça comme ça.
Oui, en fait, pour l'homophobie, la transphobie, c'est à la fois c'est la remise en cause d'un ordre social qu'on essaie de faire passer pour un ordre naturel. C'est-à-dire qu'on parle d'un ordre de la famille, un ordre de la reproduction, un ordre de l'identité, de l'identité, quoi, qui serait une identité par le sens, déterminée par le tout. Et du coup, en remettant en cause cet ordre social qui est oppressif, on remet aussi effectivement en cause un ordre de domination, puisque L'oppression, l'oppression des femmes se base aussi sur l'idée très, enfin, très systématique du couple hétérosexuel, de la même façon que pour exister, l'oppression sexiste doit admettre uniquement deux catégories de genre dans un rapport d'oppression. C'est pour ça qu'on voit bien ce qui se passe avec les personnes intersexes qui sont opérées et mutilées pour absolument les faire rentrer dans une case. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas un ordre descriptif, mais un ordre prescriptif en fait. Il ne s'agit pas de se poser la question de ce qui existe, il s'agit de faire exister un certain type d'ordre pour ensuite assurer un fonctionnement bah, de domination entre eux. Mais bon, c'est partie de multiples choses qui se passent dans l'objet de la consommation, mais c'est vraiment fondamental.
Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que cette figure de l'humain, ou de l'adulte, ou de l'homme, ou du blanc, elle est rarement posée comme telle, mais cette figure-là, c'est une fiction, et c'est une fiction qu'il ne faut pas avoir comme un idéal à réaliser ou à mettre en scène politiquement, et tout ça. Je pense que c'est une fiction qui est... à critiquer et à essayer à considérer comme une fiction à combattre dans la mesure où c'est une fiction qui participe du maintien de ces dominations-là. Alors pour inventer autre chose, et ça c'est encore autre chose, là moi je critique et puis pour inventer c'est encore autre chose, mais notamment moi, il y a un point de critique qui me semble important, c'est les histoires de responsabilité. C'est la responsabilité, bon de fait c'est pas que les dominants qui sont soumis au régime de la responsabilité, on a vu que les gamins aussi, etc. Mais c'est un régime qui nous livre pieds et poings liés face à la domination de plus fort que soi en fait, que ce soit d'autres individus s'ils ont le pouvoir, ou que ce soit des institutions, ou que ça peut être l'État avec le système judiciaire, etc. Où on considère qu'on a à rendre compte de ce qu'on fait et qu'on peut être puni pour ça, c'est-à-dire il y a un régime d'usage de la violence qui est fondé sur ces histoires de responsabilité et qui est finalement un régime de terreur où en fait la régulation des relations sociales est fondée sur la crainte de la punition. Alors bon, la punition ça peut être l'emprisonnement, ça peut être plein de choses, et je pense que ça c'est une des choses qui sont qu'il est intéressant de remettre en question pour essayer de faire prévaloir d'autres modes, d'autres figures possibles et d'autres types de régulation sociale aussi que l'usage de la terreur et du pouvoir et de la contrainte. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Pour moi, la remise en question du spécisme, c'est aussi la remise en question de la figure d'humanité, de la figure de l'humain, et la remise en question de la domination adulte, c'est aussi la remise en question de la figure de l'adulte, telle qu'elle est établie, une sorte d'individu souverain qui serait autonome, qui serait capable de se dépatouiller tout seul dans la vie, qui serait indépendant et qui serait responsable. Voilà, pour moi-même, j'avais envie de finir là-dessus.
Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir comment la domination s'applique différemment sur les garçons ou les filles. Parce que je pense que la domination par rapport aux petites filles, c'est encore une autre domination. Et ça, c'est intéressant comme perspective de travail, parce que
au niveau du discours, pendant longtemps, c'était clairement assumé que ce n'était pas la même chose, l'éducation pour les filles et pour les garçons. Et où vraiment, pour les garçons, il y avait ce discours, on éduque les garçons à devenir des adultes, des membres, des citoyens, des hommes libres. Et du coup, on les éduque à l'humanité, quoi. Et où les filles étaient éduquées à être des femmes. Et en fait, même pendant longtemps, il n'y avait pas d'éducation spécifique, il n'y avait pas d'institution éducative pour les filles, c'était uniquement pour les garçons. Et les filles passaient directement du statut de jeune fille, de petite fille, au statut de femme en état d'être mariée, d'être procréée, etc. Et après, il y a eu des institutions éducatives qui étaient typiquement centrées sur l'éducation à la féminité, en fait, au rôle de femme, en tant que, pas du tout en rôle de citoyenne, mais en rôle de dominer, approprier. Moi, ma grand-mère, elle a été, elle a fait une. Elle a été à une école, à coudre, à gérer un budget, à faire à manger, tout ce genre de choses, quoi.
Les écoles ménagères.
Ouais. Et maintenant, c'est un discours qui est plus assumé, évidemment, directement, mais où on voit bien comment il y a une reconduction.
On voit dans l'orientation, l'orientation des filles, et puis il y a une intériorisation de ça. Les filles, même si elles sont bonnes, elles ne demandent pas certaines sections parce qu'elles n'osent pas, elles vont être en concurrence.
Il y a une super reconduction qui se fait d'une façon diffuse à travers plein de micro-dispositifs dont les gens n'ont pas nécessairement conscience.
Je parlais de ta grand-mère, mais il y a un diplôme, un BTS, qui a 5 ans seulement. Maintenant, il s'appelle Économie sociale et familiale. Et dedans, il y a des cours. Enfin,
ça se pratique ici dans ce... Je dis ça se pratique ici, dans cet établissement.
Et c'est assez récent. Il n'y a plus de cours de cuisine, ni de cours de couture.
Mmh. Oui, parce qu'il y en a encore ici, il n'y a pas longtemps. Mmh. Mmh.
Par les pères et que ce soit pas l'institution l'éducation nationale, je ne sais pas si ça existait encore à ce moment-là. Et elle a eu tout un théorème à un moment à cause de toutes les. L'institution a eu tout intérêt à reprendre en main l'éducation de tous les enfants de manière systématique pour en fait tuer toutes les idées politiques qui pouvait y avoir dans leur tête pour les formater. Notamment, il y a eu les hussards noirs de la République qui étaient l'école militaire, l'expression a été reprise, je crois, plus généralement après. Et on voit que, alors, je ne sais pas quel était le statut des femmes à ce moment-là par rapport à l'éducation. Mais grosso modo, le but c'était au lieu de réprimer les gens par les armes, comme la semaine sanglante, les dizaines de milliers de morts de la commune de Paris, et ben, les réprimer directement dans leurs pensées et empêcher toute autonomie et empêcher tout auto-apprentissage, parce que les ouvriers, s'ils savaient les réécrire, c'est notamment parce que dans le contrat de travail, c'était marqué qu'il y avait une obligation il y avait une clause d'apprentissage dans les entreprises et tout ça. Alors, c'est pas forcément les enfants, du coup, c'est peut-être les adultes à ce moment-là qui apprenaient sur le tard, quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi un truc à soulever là-dessus.
Je ne connais pas bien, j'ai eu quelques trucs moi qui ne me plaisaient pas bien, mais peut-être parce que justement je suis beaucoup dans la rationalité. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc assez fondamental de déconstruire cette histoire de la raison qui n'est jamais vraiment définie, cette raison humaine, cette raison masculine, cette raison adulte qui s'opposerait à une non-raison des enfants, des animaux, des femmes. Comme si les comportements des animaux, des enfants et autres n'étaient pas des comportements qui sont motivés, qui tiennent compte de. Enfin, au même titre, quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais vraiment compris quelle était cette histoire de raison. J'ai l'impression que c'est des sortes d'arguties un peu métaphysiques, théoriques. Comme quand on parle de liberté ou de libre arbitre, c'est jamais vraiment défini précisément qu'est-ce que c'est. Et ça tient pas debout, quoi.
C'est une entité majuscule.
C'est une entité majuscule.
C'est comme ça que Robespierre invente le culte de la déesse qui sont méthode. On ne sait pas ce que c'est, ça remplace Dieu.
Mais je pense que la première domination, c'est justement la domination fictive. Vous citiez tout à l'heure Descartes,